Alors, je sais pas si vous connaissez la chanson des Beatles. Enfin, je suis sûr que vous la connaissez. C'est Imagine. Donc, je suis sûr que quand on dit ça, il y a l'air qui revient dans la tête. Il y a vraiment le génie mélodique des Beatles. Et voici des paroles de ce chant. Imagine qu'il n'y ait pas de paradis. Imagine qu'il n'y ait pas d'enfer. Imagine que tout le monde vive pour le jour d'aujourd'hui. Imagine qu'il n'y ait plus de religion. Imagine que tout le monde vive dans la paix. Vous allez peut-être me dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul. J'espère qu'un jour, vous vous joindrez à nous et le monde sera un. D'un côté, donc, on a cette chanson avec la religion qui est vue comme un obstacle à la paix et à l'unité et à l'harmonie dans le monde. Alors, cette chanson a environ 50 ans, mais ça a certainement pas pris beaucoup de rides dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains. Et puis de l'autre côté, on voit une société aujourd'hui en France où on voit de nombreuses fractures entre riches et pauvres, entre journalistes et peuple, entre employés et entrepreneurs, entre gens de la campagne et gens des villes. Il y a un mouvement actuellement qui reflète la montée hein, de ces fractures et même de ces haines, avec beaucoup de violence, de la violence banalisée, de la violence verbale, de la violence physique. Alors comment à répondre à cela en tant que chrétien? D'un côté, on voit donc le scepticisme de nos contemporains, et de l'autre, la montée des fractures, de la violence, de la haine dans notre pays. Alors on va lire donc dans la première lettre de Jean, qui se trouve page 806. Donc c'est première lettre de Jean, chapitre 4 et versets 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous ayons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Et jusqu'ici, la parole de Dieu. Et je vais prier. Père, nous te remercions pour ta parole. Et quand on médite sur cette parole, on voit que ses implications sont vertigineuses. Et on te prie vraiment que tu puisses nous aider à saisir cette parole, à comprendre cette parole, et que tu puisses nous saisir par ton Saint-Esprit pour que nous puissions appliquer cette parole et vivre cette parole dans nos vies, Seigneur. Amen. Alors pourquoi avoir choisi ce texte de 1 Jean ce matin? Parce que hein, j'étais libre de choisir le texte que je voulais. Des fois, c'est pas simple parce que on préfère plutôt que réfléchir pendant plein de temps avoir un texte imposé. Mais voilà, j'étais libre de choisir le texte et je me suis dit que ce texte était un bon texte entre Noël et le Nouvel An. D'abord, on a le rappel de l'incarnation de Jésus, c'est-à-dire de la venue de Jésus dans le monde. Hein. On voit, il a envoyé son Fils unique dans le monde. Et on a aussi un défi pour la nouvelle année qui vient en tant que communauté, dans le contexte, comme on l'a dit, de scepticisme et d'affrontement. Voilà ce que nous lisons. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Alors Jean, on voit qu'il utilise des mots simples. Les phrases sont assez courtes. Et souvent, il y a des mêmes mots qui se répètent. Mais ça a beau être simple. Et avec des phrases courtes, c'en est pas moins très profond. Et là, on voit qu'il y a un seul mot un peu difficile dans le passage, hein, c'est expiatoire. À part ça, il n'y a pas vraiment de mots compliqués. Et on voit que ce passage commence par un appel. Donc l'appel de s'aimer les uns les autres. Alors quand Paul commence par des arguments de haute théologie, souvent dans ses lettres, pour ensuite passer dans un deuxième temps aux implications pratiques dans nos vies, Jean, lui là, il fait l'inverse, il commence par une implication pratique, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de haute théologie derrière. Et on voit justement, derrière l'appel à s'aimer les uns les autres, on voit qu'il dit que l'amour vient de Dieu, que Dieu est amour. Alors, bien aimé, aimons-nous les uns les autres? Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les autres? Jean s'adresse ici à la communauté chrétienne. C'est à nous qu'il parle ce matin en tant que communauté, en tant qu'Église, en nous commandant donc de nous aimer les uns les autres au sein de la communauté. Et c'est un commandement que nous trouvons dans la bouche même de Jésus, dans l'évangile de Jean cette fois-ci. Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et on trouve ça dans Jean au chapitre 13. Mais si l'amour dont on parle ici est l'amour que l'on a les uns pour les autres dans la communauté, dans l'Église, cela ne veut pas dire que cet amour va rester entre nous, qu'il ne va pas déborder ailleurs. Cet amour, il trouve sa source dans la communauté, dans l'Église, parce que l'amour vient de Dieu, parce que Dieu est amour. Et donc, on est appelé à le vivre pleinement dans l'Église. Mais on pense bien que cet amour, ensuite, il va un petit peu comme une marmite hein, qui déborde. Ça va déborder autour de nous. Et on pense bien aussi que si on a déjà du mal à s'aimer entre nous dans l'Église, eh bien, on va avoir du mal à aimer les autres ailleurs. Aimez-vous les uns les autres. Donc. Alors, si on interroge les gens dans la rue, je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Aimez-vous les uns les autres, ouais, c'est super. On est d'accord. John Lennon aussi, dans sa chanson, est d'accord avec ça. Hein. Aimez-vous les uns les autres. Vivre l'harmonie, vivre l'unité ensemble. Sauf que pour lui, eh bien, la religion est un frein et même est contraire à cela. Aimez-vous les uns les autres. Mais dans la pratique, on voit bien que ça n'a pas l'air de très bien marcher, hein, de s'aimer les uns les autres. Et il n'y a certainement pas besoin de donner beaucoup d'exemples ici. Certainement, vous avez des exemples dans la tête à quel point c'est difficile de s'aimer les uns les autres. Dans la pratique, on voit que ça a quand même du mal à marcher. Ça paraît simple, ça paraît si simple, mais ça ne l'est pas tant que ça. Alors peut-être déjà parce qu'on aurait un problème entre nous de définir qu'est-ce que c'est que l'amour ? Qu'est-ce que c'est que l'amour ? L'amour aujourd'hui est souvent réduit à un sentiment qui va varier en fonction du temps et des moments. Un jour on aime, le lendemain on n'aime plus. Un amour consumériste, comme on consomme des produits. Et on voit là que c'est un amour qui a mis lieu de l'amour dont il est question ici dans ce passage. Alors pourquoi devons-nous nous aimer les uns les autres? Quelles sont les raisons? Et que signifie cet amour? Alors Jean ici nous donne trois raisons d'aimer. Nous aimer les uns les autres parce que Dieu est la source de l'amour. C'est ce qu'on voit dans les versets 7 et 8. Nous aimer les uns les autres parce que Dieu a pris l'initiative de nous aimer. C'est ce qu'on voit dans les versets 9 et 10. Et nous aimer les uns les autres parce que à travers l'amour que nous portons les uns envers les autres, eh bien nous montrons que Dieu demeure en nous. Et ça, c'est dans les versets 11 et 12. Donc, tout d'abord, Dieu est la source de l'amour, dans les versets 7 et 8. Aimez-vous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Les versets suivants, Dieu est amour. Nous voyons là que c'est dans la nature de Dieu d'aimer, comme la chaleur vient du soleil, eh bien l'amour vient de Dieu. Et comment peut-on savoir que Dieu est amour? On pourrait en douter au départ, car comment un Dieu seul et unique peut connaître l'amour? Comment peut-il le connaître alors qu'il est seul, alors qu'il est encore seul, avant qu'il n'ait créé la moindre créature? Il aurait alors besoin des autres pour connaître l'amour. Il ne pourrait pas le connaître en lui-même. Mais on sait que Dieu connaît l'amour en lui-même, à travers la Trinité. Les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, interagissent mutuellement dans une relation parfaitement harmonieuse, dans une relation de service mutuel, sans qu'il n'y ait jamais d'égoïsme, de conflit. Dieu vit donc en lui-même une harmonie parfaite, un amour parfait à travers la Trinité, où chacun est amené à servir l'autre. Dieu est donc amour en lui-même. Et à travers le Dieu qui se révèle dans la Bible, nous pouvons donc savoir que Dieu est amour en lui-même et connaît l'amour en lui-même. Et du coup, si Dieu est amour, si cela fait partie de sa personne, eh bien, il y a un lien logique. C'est que celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors quand Jean parle de connaissance ici, il ne fait pas ici référence simplement à une connaissance intellectuelle, à un savoir. Comme par exemple, moi je connais ta date d'anniversaire, ou je connais les dates clés dans la vie de Charles de Gaulle. Non, il ne fait pas référence simplement à une connaissance intellectuelle, un savoir. Il fait référence à une connaissance intime, à une relation. On pourrait avoir des tas de connaissances dans la Bible, réciter des versets par cœur, faire de beaux sermons, de belles prières. Et si on n'aime pas, eh bien le verdict de Jean est sans appel. Si on n'aime pas, ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu. Alors il ne s'agit pas ici d'un discours non plus anti-intellectuel. Il ne s'agit pas de dire que ceux qui ont beaucoup de connaissances intellectuelles sont éloignés de Dieu. La preuve est que Dieu utilise notre intelligence pour se faire connaître. Il le fait à travers de sa parole. On a besoin de faire des efforts pour comprendre ce que sa parole nous dit, pour le connaître, même si on sait aussi qu'on a besoin que l'Esprit nous éclaire pour le connaître. N'empêche qu'on aurait beau avoir toute la connaissance biblique, toute la connaissance du monde, et ça rappelle aussi ce que dit l'apôtre Paul dans Corinthiens, on aurait beau avoir toute la connaissance du monde, si on n'a pas l'amour, eh bien, on n'est rien. Ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu, ça veut dire qu'on ne le connaît pas personnellement, intimement, car Dieu est amour. Alors parmi les marques distinctives du chrétien, il y a donc l'amour, et l'amour les uns pour les autres. Et c'est aussi un test pour nous, évangéliques, nous qui affirmons être nés de nouveau. Nous voyons cette affirmation dans le texte. Toute personne qui aime est née de Dieu. L'amour est donc une marque de la nouvelle naissance. Et nous devons maintenant mieux définir ce que Jean entend ici par le mot amour. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On va voir que ce n'est pas un amour léger, mais que c'est un amour robuste. On voit que Dieu, ensuite, n'est pas resté dans la théorie. Il n'est pas resté à une définition abstraite de l'amour, mais il a agi, il s'est manifesté, il est venu dans le monde et a montré son amour parmi nous. Nous l'avons vu à l'œuvre et nous avons le récit de ce qu'il a fait parmi nous. Voyons maintenant donc Dieu à l'initiative, donc les versets 9 et 10. Alors il y a une chose qui est étonnante parmi les gilets jaunes, c'est qu'il y a une joie à se retrouver ensemble. Et ce qu'on voit en fait, c'est que parmi eux, il y en a beaucoup qui ont l'air de redécouvrir en fait la joie qu'il y a à partager ensemble, à être unis ensemble à un rond-point, à partager un repas, à être autour d'un feu pour se réchauffer. Et dans une société très individualiste comme la nôtre, c'est comme une redécouverte. Mais ce qu'il y a, c'est que aussi, on peut dire aussi que cette sorte de communion entre eux est aussi par antagonisme par rapport à des ennemis. Voilà, ça va être le gouvernement, la police, etc. il va avoir aussi des ennemis derrière. Donc d'un côté, il y a l'harmonie entre eux, mais avec des ennemis aussi autour d'eux. Mais au contraire de l'amour de Dieu, qu'on voit là dans ces versets 9 et 10, l'amour de Dieu qui est à l'initiative et qui va vers ses ennemis. Voilà donc ce que nous lisons. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alors d'abord, comme on l'a dit, un amour qui est à l'initiative. Dieu ne nous a pas attendu pour se manifester, ou sinon Dieu attendrait encore. Dieu ne nous a pas attendu. Dieu n'a pas attendu qu'on l'aime pour manifester son amour, ou sinon Dieu attendrait encore, parce qu'il est dit ailleurs que nous étions ses ennemis, que nous étions sans force, et c'est Dieu qui est venu parmi nous. On ne peut même pas dire que c'est un amour qui fait simplement le premier pas, mais c'est un amour qui va jusqu'au bout, un amour qui est à l'initiative jusqu'au bout, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de Jésus, puisque Dieu envoie son Fils, Jésus-Christ, jusqu'à la mort pour nos péchés. Donc un amour à l'initiative et à l'initiative jusqu'au bout. Ensuite, deuxième caractéristique de cet amour, un amour qui coûte. Alors, je suis sûr que vous êtes ému quand vous voyez des films où le héros se sacrifie d'une manière ou d'une autre, où le héros se sacrifie pour les autres. Moi, en tout cas, je suis toujours ému quand je vois ce genre de film. Par exemple, je me rappelle d'un Batman où le super-héros accepte à la fin du film de porter la honte et la culpabilité. Il accepte que soit portée sur lui l'accusation d'un crime qu'il n'a pas commis, parce que forcément c'est le héros, c'est pas lui qui a commis le crime, il cherche à sauver, il cherche pas à détruire, mais il accepte de porter sur lui la honte d'un crime, et bien pour sauver la ville. Et donc il apparaît aux yeux du peuple comme un traître, au lieu d'apparaître comme un héros. Et nous pouvons certainement avoir dans la tête plein d'autres exemples de sacrifices qui nous émeuvent. Mais en Jésus, nous avons le sacrifice ultime. Quelque part, tous ces exemples qu'on veut trouver culminent dans le sacrifice ultime qui est le Christ. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Et c'est donc le sacrifice ultime qui inspire tous les autres, puisque Jésus se sacrifie pour que nous ayons la vie. Il nous sauve en donnant lui-même sa vie sur la croix. Un amour donc qui coûte, et un amour aussi robuste, qui n'est pas en contradiction avec la justice de Dieu, parce que Dieu est juste, et si Dieu est juste, eh bien pour tout mal qui est fait, il faut qu'il y ait... un retour, une rétribution pour le mal qui est fait. Il faut que le mal soit puni parce que Dieu est juste. Et il faut aussi, nous aussi souvent crier pour l'injustice d'une manière ou d'une autre. Et nous sommes bien contents que la justice se fasse et que le mal soit puni. Et c'est pareil avec Dieu. Dieu ne peut pas se contredire lui-même. Dieu est juste. Il faut donc que le mal soit puni. C'est justement parce que Dieu est juste, parce que tout le mal qui est fait bien doit être puni, et bien que nous avons la croix. Justice et amour sont deux facettes d'une même pièce. Et à la croix, c'est Dieu lui-même qui paye pour le prix, pour que la justice soit rendue. Et on lit, il a été une victime expiatoire pour nos péchés. Alors, une meilleure traduction, plutôt expiatoire, ce serait propitiatoire. C'est un peu la racine de ce mot-là qu'on trouve. Propitiatoire. Et le propitiatoire, c'était le couvercle, donc sur l'arche de l'alliance, c'était le couvercle qui recouvrait l'arche. Et sur ce couvercle, tous les ans, eh bien, du sang d'un sacrifice animal était aspergé. Donc le propitiatoire était couvert de sang. Et ça, c'était en signe que l'animal prenait sur lui la colère de Dieu. Le sang était versé pour rendre Dieu propice, parce que Dieu est en colère, et est en colère justement, comme on l'a lu aussi dans le psaume ce matin, face au mal, parce qu'il est, il est saint, il est juste, il est en colère face au mal que nous faisons, face au péché, face à notre rébellion contre lui. Il est en colère contre le mal que nous faisons, il faut donc que justice se fasse. Et on lit dans la Bible que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut donc que justice soit rendue. Et on voit à travers le sacrifice de Jésus que, eh bien, que justice et amour de Dieu sont parfaitement réconciliés à la croix, puisque le prix, le salaire du péché, eh bien, c'est Jésus lui-même qui l'a payé par son sacrifice à la croix pour que justice soit rendue. Et c'est Dieu qui s'offre lui-même en sacrifice par amour pour nous. Un amour robuste, donc, qui n'entre pas en contradiction avec la justice de Dieu. On voit aussi un amour qui a un but ultime qui est de donner la vie, qui est de nous donner la vie. On lit, Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin qu'en lui, nous ayons la vie. Et on voit que le Fils a été focalisé hein, sur cet objectif de nous sauver, de nous donner la vie. Par exemple, à Noël, bah, j'ai donné un cadeau à mon fils par amour, parce que je l'aime. Donc, je lui ai donné un cadeau. Mais c'est rien par rapport au cadeau de Christ qui nous sauve, qui nous donne la vie éternelle, qui nous prouve son immense amour envers nous, en nous sauvant, en nous donnant la vie. Donc, un amour qui a pour but ultime de nous donner la vie. On voit aussi un amour efficace. Un amour efficace, bah parce qu'il nous donne effectivement la vie. Je pourrais par exemple, s'il y a quelqu'un qui se noie, me jeter à l'eau pour le sauver. Mais ce n'est pas parce que je me jette à l'eau que je vais sauver. Je pourrais aussi me noyer moi-même. Et alors, ce serait plutôt inefficace. Hein, ce serait deux personnes noyées au lieu d'une. Mais l'amour de Dieu, par contre, lui, il est efficace. Il arrive à son but. Il nous donne effectivement la vie. Le sacrifice de Jésus n'a pas été vain, il est ressuscité. Et le fait que lui-même soit ressuscité nous donne l'espérance et l'assurance de notre propre résurrection quand nous mettons notre foi en lui. Le sacrifice de Jésus n'a pas été vain, il a été efficace. Alors voici donc comment mieux définir l'amour dont il est question ici. C'est un amour qui est à l'initiative jusqu'au bout, qui n'a pas attendu, mais qui a agi. C'est un amour qui coûte, qui sacrifie. C'est un amour robuste, qui n'est pas en contradiction avec la justice. C'est un amour qui a pour but ultime de donner la vie. C'est un amour efficace. Et tel est l'amour de Dieu qu'on voit ici. Et maintenant qu'on a mieux défini l'amour de Dieu ici, comment l'appliquer ? Comment l'appliquer nous-mêmes dans l'amour que nous portons les uns envers les autres. Voici les deux derniers versets du passage. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Alors là, c'est notamment le verset 12. C'est un verset que j'ai pas fini de méditer, je pense que j'aurais jamais fini de méditer, tellement il est énorme, tellement il est profond. On voit que l'amour que nous portons entre nous, l'amour que nous portons entre nous en tant que communauté, en tant qu'Église, est un test et révèle la présence de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Donc l'amour que nous portons les uns pour les autres, en tant que communauté, révèle que Dieu est en nous. C'est un test qui révèle la présence de Dieu parmi nous, par son Saint-Esprit. Alors, nous sommes dans une société désabusée par les grands discours. Ils ne supportent plus les discours qui sont en contradiction avec les actes. À quoi sert tout ce blabla s'il n'y a pas de résultat derrière, s'il n'y a pas de signe de changement derrière, à quoi sert tout ce blabla? Une société très méfiante quant aux grands discours. C'est pour ça que les grands discours ne passent plus. Et donc, nous aussi, comment vont réagir les gens quand on va leur dire ce grand discours du christianisme, du salut de Jésus-Christ, si c'est que du blabla et que les gens ne voient pas de transformation derrière ou de différence derrière parmi nous. Et Jean, ici, répond pile à cette question et à ce scepticisme qu'il peut avoir autour de nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, nous montrons que Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous sommes donc mis au défi de montrer qui est Dieu, de montrer le caractère de Dieu à travers la manière dont nous vivons, à travers l'amour que nous portons les uns pour les autres dans l'Église, comme un signe, comme un test de la présence de Dieu. Et nous voyons donc, bien aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. On a vu donc un amour à l'initiative, et nous aussi, nous ne devons pas attendre d'être aimés pour aimer, car Dieu lui-même n'a pas attendu pour aimer. Il est venu à nous. Nous n'avons pas nous-mêmes été à l'initiative, nous ne méritons pas cet amour, mais Dieu est venu à nous. Et à travers cet amour que nous voyons, nous sommes aussi appelés nous-mêmes à aimer nos ennemis, à aimer les gens qui ne sont pas aimables, et à être actifs, à vivre cet amour envers les autres. On voit un amour qui est prêt à se sacrifier, un amour qui coûte, un amour qui est allé jusqu'au bout pour Jésus-Christ. Et nous sommes nous-mêmes appelés à vivre cet amour qui coûte. Nous voyons un amour robuste, un amour de Dieu qui n'est pas en contradiction avec sa justice, mais qui va jusqu'au bout justement pour être en cohérence avec sa justice. Et un amour robuste pour le bien. Et on voit dans l'Écriture un amour robuste. On le voit aussi par exemple avec Paul dans Galates, qui n'hésite pas à reprendre son frère, l'apôtre Pierre, parce qu'il sent que l'évangile est en danger. Et donc, par amour, donc, il le reprend. On voit que ce n'est pas un amour mielleux, un amour superficiel, mais c'est un amour robuste. Et c'est un amour qui reprend quand il sent que l'évangile, que la grâce, l'évangile de la grâce de Jésus-Christ est mis en danger dans l'Église. Un amour donc qui est centré sur l'évangile, un amour qui a pour objectif final la vie, hein, la vie éternelle en Jésus-Christ, avec l'évangile au centre, parce que cet évangile est efficace, on voit, hein, qui nous donne la vie. On peut être assuré de l'efficacité de cet évangile à travers la résurrection de Jésus. Nous voyons donc là les caractéristiques de cet amour. Alors bien sûr, on peut se sentir pas à la hauteur de cet amour. Je pense que personne ne peut se sentir à la hauteur de cet amour. Mais c'est justement là que nous voyons la beauté de cet évangile de Jésus-Christ. C'est là qu'on voit la différence de ce que c'est la foi et la connaissance en Jésus, parce qu'on voit cet amour qui s'est donné jusqu'au bout. On voit qu'on ne va pas aimer pour gagner, on ne va pas aimer pour gagner, mais on va aimer parce qu'on a déjà tout gagné en Christ, parce qu'il s'est offert lui-même, parce qu'on a déjà tout gagné en Christ. On n'a donc pas à manipuler, on est libéré de la manipulation parce qu'on ne va pas chercher à aimer avec des idées derrière pour essayer de gagner quelque chose, Mais non, on va aimer parce qu'on a déjà tout gagné en Christ, qui s'est offert pour nous à la croix et qui nous offre la vie éternelle par la foi en lui et en venant à la croix les mains vides, conscient qu'on est incapable par nous-mêmes d'aimer parfaitement, mais que Dieu nous donne le moyen par sa parole, par son Saint-Esprit, et que nous puissions donc vivre cet évangile dans l'Église, que nous puissions le communiquer aux autres autour de nous, en aimant nos ennemis, en priant pour ceux qui nous persécutent. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Et je propose qu'on passe juste 2 minutes dans le silence pour méditer ce que nous avons appris ce matin dans l'Écriture. Et puis après, je vais prier. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste, non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Père, on te remercie pour cette parole. Remercie pour la grandeur extraordinaire de l'amour dont tu as fait preuve envers nous. Alors que nous étions sans force, alors que nous étions tes ennemis, tu nous as aimés jusqu'au bout, jusqu'à la mort sur la croix. Et nous prions vraiment que nous puissions être saisis par cet amour que tu as eu pour nous. Et nous prions vraiment par ton Saint-Esprit que nous puissions comprendre la grandeur, la hauteur, la grandeur de cet amour envers nous. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions le vivre en tant qu'Église, parce que nous voyons que l'amour que nous portons les uns envers les autres dans la communauté est un test de ta présence, que tu demeures parmi nous. Et tu dis même que l'amour est parfait en nous quand nous vivons l'amour les uns pour les autres. Et nous prions que nous puissions, dans cette nouvelle année qui vient, eh bien vivre cet amour et face à une société désabusée par les grands discours. Nous te prions que nous puissions vraiment vivre cet amour pour montrer ta présence et que ta parole puisse agir dans les cœurs, parce que tu agis par ta parole, que tu puisses agir par ta parole et ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Amen.